Bonjour à tous et bienvenue dans la première des deux émissions spéciales de 2000 ans d'histoire sur les prisons en France, aujourd'hui de la Révolution à la Deuxième Guerre mondiale.
L'objet des prisons n'est pas de rétablir la santé des criminels ou de prolonger leur vie, mais de les punir. Alexis de Tocqueville.
D'histoire. En France, la prison est avec l'école l'institution qui a fait l'objet du plus grand nombre de réformes. Et on ne compte plus les ministres, les philanthropes ou les philosophes qui, depuis la Révolution, ont tenté d'améliorer le système carcéral pour répondre à la fois à la nécessité de punir les criminels et de permettre leur réinsertion dans la société après qu'ils aient purgé leur peine. Mais deux siècles après les premières tentatives de réforme, les 60 000 détenus qui moisissent aujourd'hui dans les prisons françaises vivent encore dans des conditions inhumaines, indignes du pays qui a inventé les droits de l'homme, au point qu'ils pourraient presque regretter le sort des prisonniers de l'Ancien Régime lorsqu'au Moyen Âge, M. de la Personne devenait le premier gouverneur de la plus célèbre prison française, la Bastille.
J'aimerais voir une cellule.
Ouvrez-nous la plus belle, la 5.
Passe.
Ah, oui, oui. Il m'apparaît que celle-ci réunit toutes les qualités. Salubrité, aération, épaisseur des murailles, solidité à toute épreuve des barreaux, et j'irais même jusqu'à dire confort.
Depuis 12 ans, sans me lasser, je m'égosille à plaider pour les pauvres gens, contents de famille et non pas de logement. Ils ont maintenant de quoi se loger, on leur a construit la Bastille.
Jean-Claude Vimont, bonjour.
Bonjour. Alors
vous avez peut-être entendu la voix de Gérard Philippe dans cet extrait du film de Sacha Guitry, Si Paris nous était conteur. Je ne sais pas si la Bastille était aussi idyllique que dans ce film. C'était en tout cas une époque où la prison n'avait pas la même fonction qu'aujourd'hui. Dans un petit livre passionnant sur les prisons, vous écrivez quelque chose qui peut surprendre aujourd'hui, c'est que jusqu'à la Révolution, il y avait bien sûr des prisons, mais il n'y avait pas à proprement parler de peine de prison. On condamnait au bagne, on condamnait à mort ou à des supplices, mais pas à la prison.
Non, la justice de l'Ancien Régime cherche avant tout à manifester la magnificence du pouvoir royal, la majesté royale, et cherche en quelque sorte à prendre le corps des condamnés, à exercer une prise sur leur corps par des châtiments particulièrement durs, et la prison ne sert qu'à tenir ces détenus en attente de pouvoir les questionner, la fameuse question judiciaire, pour ensuite frapper leur corps, éventuellement leur famille, et ensuite les exclure, les bannir, les expulser. Et donc la prison n'est qu'un lieu provisoire de détention, même si au XVIIIe siècle, on voit se développer des formes d'emprisonnement pour certaines catégories, les femmes, qu'on ne peut pas envoyer au bagne, et les bagnes existent depuis 1750 dans les ports, précédemment c'était les galères, et les femmes ne sont pas envoyées au bagne. Et de la même façon, les mendiants, les miséreux, sont de plus en plus envoyés vers des hôpitaux généraux ou vers des dépôts de mendicité, et donc se développent des lieux d'enfermement.
Qu'on appelle d'ailleurs plutôt... Oui, c'est ça, des lieux d'enfermement plutôt que prison, hein, c'est ça.
Voilà, des lieux d'enfermement pour tenir ces marginaux de la société d'Ancien Régime, ceux qui troublent l'ordre dans les villes et qui sont à la merci de sentences des lieutenants de police qui les envoient dans ces endroits où on commence déjà à s'efforcer de les faire travailler.
En tout cas, on les met à l'écart et alors ils y sont envoyés dans ces endroits, dans ces lieux d'enfermement, soit par la famille qui veut se débarrasser d'eux, soit par le roi, c'est ce qu'on appelle les fameuses lettres de cachet, en fait c'est l'arbitraire, et on les envoie dans des établissements, dans des prisons d'État, comme la Bastille, ou encore dans des prisons qui sont administrées par des religieux, il y a déjà des ordres religieux qui font de la prison, si je puis dire.
Voilà, les lettres de cachet ont souvent été seulement interprétées comme des lettres de cachet politique, alors que toute une police des familles a été organisée par les ordres du roi, lettres de petit cachet, autre expression pour les désigner, que les familles demandaient aux autorités de police locale, aux intendants de généralité, pour faire enfermer leurs enfants libertins, leurs vieillards dépensiers. Voltaire lui-même a eu recours aux lettres de cachet. Et c'est vrai que la société du XVIIIe siècle s'accommode de ces enfermements tout en protestant contre les enfermements arbitraires qui émanent du roi et qui sont les lettres de grand cachet qui envoient quelques parlementaires, quelques auteurs de libelles dans les grandes prisons d'État.
Un arbitraire en tout cas auquel la Révolution allait mettre un terme quelques jours après la chute de la Bastille, précisément dans la Déclaration des droits de l'homme.
La loi est l'expression de la volonté générale. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses.
Alors c'était quelques-uns des articles de la Déclaration des droits de l'homme au début de la Révolution. C'est d'ailleurs de la Révolution que date au fond la prison moderne, celle que l'on connaît aujourd'hui, avec à l'époque l'apparition de quatre types de prisons, ce qu'on appelle les maisons d'arrêt, les maisons de justice, les maisons de correction et les maisons de détention, puis bientôt les maisons centrales. On ne sait pas très bien, même aujourd'hui, à quoi correspondent ces différentes prisons, Jean-Claude Vimont.
Au début de la Révolution, les constituants ont souhaité, par le premier code pénal français, celui de 1791, qu'on a un petit peu oublié par rapport à celui de 1810, établir une distinction entre les différents prisonniers et placer au cœur de la pénalité un système qui serait la privation de liberté, donc l'emprisonnement et l'obligation de travail. Pour organiser cette nouvelle peine de privation de liberté, la liberté étant le bien le plus sacré aux yeux des révolutionnaires, on organise quatre types de prisons, des prisons préventives, les maisons d'arrêt, des prisons...
Préventives, c'est-à-dire que où on met des gens en attente de
en
jugement.
En attente de jugement, des prisons où séjournent ceux qui attendent de passer en jugement ou pendant leur jugement, les maisons de justice qui sont en fait souvent confondues avec les maisons d'arrêt et ce sont principalement pour les gens qui passent devant des tribunaux criminels, et puis des maisons pour peine qui n'ont pas encore de nom au moment de la Révolution mais très vite vont avoir le nom de maison de détention, maison de gêne, et puis sous le Premier Empire, lorsque le nouveau code pénal va créer la peine de la réclusion, on va créer ce qu'on appelle les maisons centrales, qui accueilleront tous les condamnés à plus d'un an de prison, excepté ceux qui continuent d'être envoyés au bagne, puisque le bagne n'a pas été supprimé par la Révolution. Change de nom, mais continue d'exister.
Alors, des prisons qui sont sous la responsabilité, non pas du ministre de la Justice, comme aujourd'hui, mais du ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire de la police. Et ça a duré un siècle, Jean-Claude Vimont.
Oui, de 1795 jusqu'en 1911, les prisons ont été sous l'autorité du ministère de la Justice et, pour la région parisienne, on pourrait dire sous l'autorité du préfet de police de Paris. C'est une organisation disons administrative qui a eu pour effet de mettre mal à l'aise les magistrats qui n'avaient aucun contrôle sur l'univers des prisons et périodiquement les magistrats sont ce qu'ils appellent la plaie vive des prisons pour s'émouvoir de l'état de ces prisons.
Alors cela dit, l'état n'est pas très brillant et dès cette époque-là il y a des ministres de l'Intérieur donc responsables des prisons qui déjà songent à des réformes pour améliorer, pour humaniser la prison. Il y a notamment un ministre de l'Intérieur de Louis XVIII, Descazes, qui est un des premiers à penser à une réforme de la prison, ou en tout cas essayer de la faire appliquer.
Dès 1819, Descazes est à l'origine de l'organisation d'une société royale pour l'amélioration des prisons qui va réunir tous les philanthropes de ce temps, quelle que soit leur appartenance politique, pour améliorer des prisons qui, il faut bien le dire, avaient été laissées en l'état pendant la Révolution et pendant l'Empire, puisque les urgences de l'heure n'étaient pas l'univers carcéral, et donc pour une restauration des prisons, pour une réforme des prisons, avec quelques principes qui étaient de mettre fin à l'arbitraire des geôliers, des concierges de prison, des directeurs de prison de cette époque, de mieux classer les détenus, séparer les femmes des hommes, les enfants, des adultes, les prévenus, des condamnés, mettre au travail tous ces prisonniers et surtout améliorer l'hygiène des prisons. Donc, un programme de réforme et des réalisations réelles, en particulier dans la région parisienne. Des budgets assez conséquents ont été dépensés pendant la restauration pour cette réforme des prisons.
L'idée, c'est de réhabiliter, en fait, les prisonniers, une fois que leur peine est purgée, de permettre, en tout cas, leur réhabilitation.
Voilà, parce que depuis la Révolution, depuis le Pelletier de Saint-Fargeau, il y a une vision optimiste de l'homme qui peut s'amender, qui peut s'améliorer et qui est présente dans le code pénal de 1791 qu'on trouve chez ces philanthropes de la restauration.
Alors, une vision optimiste que ne partage pas, bien sûr, le chef du bagne de Toulon, le sinistre Javert des Misérables de Victor Hugo.
J'ai tenu à venir t'annoncer moi-même la nouvelle.
Alors, monsieur Javert, c'est qu'elle doit être mauvaise.
Jean Valjean, pour ta conduite héroïque, la commission de discipline t'accorde une remise de peine.
Combien ?
2. Mais qu'est-ce que c'est que 2 mois dans une vie ? D'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler une vie l'existence que tu mènes ici depuis 18 ans ?
Quand je sortirai ?
Quand tu sortiras, tu emporteras le bagne à la semelle de tes godillots. Ça te suivra comme un chien jusqu'au jour où tu reviendras. Vous finissez tous par revenir.
Et c'était bien sûr John Malkovich et Gérard Depardieu dans un extrait des Misérables de José Dayan d'après Victor Hugo. Victor Hugo qui n'est pas le seul à s'intéresser bien sûr à la vie dans les prisons françaises du début du 19e siècle. La revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, au début du 19e siècle, les prisons françaises ressemblent un peu à celles peintes par Victor Hugo, encore lui, non pas dans Les Misérables, mais dans Le Dernier Jour d'un Condamné, un autre récit. Rien de plus dégradé, dit-il, de plus nu, de plus misérable que cette façade, percée d'une multitude de fenêtres grillées, où se tenait collée une foule de visages maigres et blêmes. C'étaient les prisonniers, poursuit Victor Hugo, hommes hideux, hurlants, déguenillés. En des philanthropes, vous l'avez dit, tant d'intervenir auprès du gouvernement, il demande que ne soit infligé aux détenus, je cite, aucune une peine qui dépasse celle que la loi a voulu lui faire subir en le privant de sa liberté. Donc des améliorations sont menées dans ce sens, mais dès 1836, la répression est de nouveau à l'ordre du jour. Le régime des prisons doit être plus afflictif et plus redoutable, déclare le ministre de l'Intérieur. Il faut que le travail pèse aux condamnés comme châtiment. Alors le député Alexis de Tocqueville ironise, je cite, sur les momeries des philanthropes. L'objet des prisons, dit-il, n'est pas de rétablir la santé des criminels ou de prolonger leur vie, mais bien de les punir. Mais c'est aussi Tocqueville, le même Tocqueville, qui déclare « La société a le droit de punir, mais non celui de corrompre ceux qu'elle châtie ». Tocqueville en effet s'inquiète de ce qu'aujourd'hui on appelle la récidive et il dénonce l'influence pernicieuse des prisons. Alors pour y remédier, il propose la création de prisons où les détenus sont séparés dans des cellules individuelles. C'est peut-être une chimère, dit-il, que de viser à la régénération morale des hommes que le crime a souillés, mais c'est déjà un résultat précieux si on obtient du régime de la prison que ceux qui y sont admis ne soient pas, à leur sortie, pire qu'ils n'étaient en y entrant. Alors dans les faits, la prison du 19e ne va guère s'améliorer. Par exemple, ce terrible témoignage en 1856 dans une prison pour enfants, et oui, une prison pour enfants, rapporté par un aumônier. Monsieur Lecointe, le directeur, dit-il, est d'autant moins excusable de donner une pauvre nourriture aux enfants qu'il les applique sans relâche à l'exploitation d'une carrière de cailloux qui sont ensuite cassés par eux. Ce travail fort lucratif pour monsieur Lecointe n'apprend rien aux jeunes détenus et ne fait que les abrutir. Les cellules où ils sont enfermés par pénitence sont humides, froides, peu aérées. Beaucoup d'enfants y ont été pris d'humeur. En 1887, un prisonnier anarchiste, le prince Kropotkin, fait un constat extrêmement pessimiste sur le rôle de la prison. « Quels que soient les changements introduits dans le régime pénitentiaire, dit-il, la prison tue en l'homme toutes les qualités qui le rendent mieux appropriées à la vie en société. On ne peut pas améliorer une prison, dit-il. Il n'y a absolument rien à faire qu'à la démolir. »
Alors la destruction des prisons n'est toujours pas à l'ordre du jour. Jean-Claude Vimont, 2 mots peut-être sur les textes qui précédaient du 19e siècle, mais qui sont encore d'actualité. Hein, l'éternel débat sur la fonction de la prison. Est-ce qu'elle doit seulement réprimer le crime ou est-ce qu'elle doit aussi préparer la réhabilitation, la réinsertion des prisonniers? Ça, on l'entend encore aujourd'hui.
Oui, les divergences qu'a évoquées Madame Duncan sur les philanthropes et Tocqueville au milieu de la monarchie de Juillet correspondent en quelque sorte à la montée d'une peur dans la société, une peur des élites vers 1835-1836, une peur de la récidive, puisque des statistiques pénitentiaires apparaissent vers 1826-1827. Et donc, la récidive parmi les prisonniers effraie, en même temps que cette société est en train de s'urbaniser, se paupériser, que le choléra en 1832 a fait peur à cette société. Et donc, la priorité semble être un châtiment plus grand des prisonniers. D'où les textes particulièrement durs de Tocqueville, cherchant en quelque sorte d'abord à châtier les prisonniers.
D'où l'apparition d'ailleurs de quelque chose qui est assez récent dans les prisons, c'est-à-dire un nouveau système d'enfermement qui est la cellule.
Voilà.
C'est contre la récidive qu'on veut totalement isoler dans les prisons le prisonnier.
Voilà. La société est en quête d'une solution miracle, et cette solution miracle semble avoir été trouvée aux États-Unis dans des modèles d'enfermement cellulaire, d'isolement cellulaire. Deux modèles sont débattus pendant cette monarchie de juillet, mais l'un et l'autre, je crois qu'il faut insister sur ce point-là, sont des modèles d'enfermement qui sont un durcissement de la condition des détenus. On a d'une part ce que défend Tocqueville, c'est-à-dire un isolement des détenus de jour et de nuit avec l'obligation de travailler à l'intérieur de leur cellule, sans aucun contact avec leurs co-détenus.
On leur met même une cagoule quand ils se promènent, le promenoir est totalement isolé, ils ne voient personne d'autre que leur gardien.
C'est un petit peu plus tard, sous la Troisième République, où va avoir lieu un deuxième débat cellulaire et où ce modèle cellulaire va être finalement voté par l'Assemblée en 1875, où on va effectivement décider pour les courtes peines et pour les prévenus cet isolement total de jour et de nuit. Et donc, pour l'améliorer, on va le décliner sous différentes formes, des douches cellulaires, des chapelles cellulaires, la fameuse chapelle cellulaire de Fresnes, où chaque détenu se trouvait dans une boîte, en quelque sorte, les boîtes à sel, telles que les ont appelées des détenus, des camemberts cellulaires, etc. Toute une déclinaison pour éviter cet isolement.
Ça, c'est le modèle philadelphien. Il y avait un autre modèle
on
les isole la nuit et ils travaillent le jour dans des ateliers collectifs.
Dans des ateliers et en silence. C'est le modèle auburnien qui est l'objet des débats de la monarchie de juillet.
La prison de Auburn près de New York, c'est ça.
Voilà.
C'est
il est particulièrement important parce que finalement, dans les grandes maisons centrales françaises, Clairvaux, Fontevrault, Mont-Saint-Michel, Embrun et d'autres, c'est finalement à partir de 1839 ce régime qui va être appliqué. L'obligation du silence ne disparaît paraîtra que dans les années 1950 et même plus tard, et les grands ateliers et les cellules la nuit, à défaut d'avoir pu construire des cellules, on a aménagé ce qu'on a appelé les cages à poules, c'est-à-dire dans les grands dortoirs, on isolait les détenus la nuit dans des cages. En quelque sorte.
Et on crée pour cela des prisons nouvelles, comme celle de Fresnes en 1898, qui a plus de 1600 cellules, où aussi on essaye d'améliorer, ou en tout cas de transformer d'autres prisons, comme la prison pour femmes de Saint-Lazare, qui a inspiré cette très célèbre chanson écrite en 1887 et chantée par Aristide Bruant en 1911.
C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça s'éclaire. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le temps à Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi, vieux chien, et que tu vas faire, je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici, tout le monde est décalé, la vraie erreur. Trois mois pour faire un lavé à Saint-Lazare.
Vous écoutez France Inter, 2 millions d'histoires, aujourd'hui les prisons.
Et c'était Bruant à Saint-Lazare, cette prison pour femmes dont on disait d'ailleurs qu'elle était une lèpre au cœur de Paris. Les femmes n'étaient pas mieux loties que les hommes en prison, c'était même parfois pire.
Non, la prison Saint-Lazare, effectivement, est une prison qui est apparue comme une prison modèle au début du 19e siècle. Et on assiste à sa lente dégradation jusqu'à sa destruction pendant la Seconde Guerre mondiale. Saint-Lazare était une prison avec beaucoup de cours, donc qui apparaissait comme une prison aérée, et donc bien convenir à, aux détenus. Et puis progressivement, c'est une prison qui a hébergé à côté des femmes prévenues et des femmes condamnées à des courtes peines, les prostituées parisiennes. Et une des innovations de Salazar avait été la création d'une infirmerie pour traiter des maladies vénériennes. Donc c'est vrai que Saint-Lazare a vieilli au fil des années. Son encadrement par des congrégations religieuses, une des grandes caractéristiques des prisons de femmes, c'est le poids très important depuis la monarchie de Juillet des congrégations religieuses de gardiennes de prison, en quelque sorte, qui encadrent ces femmes. Et c'est vrai que Saint-Lazare a été qualifié de pourrissoir dans les années 1920, et on va finalement fermer cette prison.
En 1932, je crois. Enfin,
voilà.
Autre catégorie de prisonniers, alors là, c'est encore plus effrayant, ce sont, on l'a entendu tout à l'heure dans les textes, les enfants. Jean-Claude Vimont.
Les mineurs de justice, depuis la Révolution, bénéficient d'un traitement plus doux que celui des adultes.
Ils vont pas en prison, ils vont dans ce qu'on appelle des colonies pénitentiaires.
C'est à partir de la monarchie de Juillet, à partir de 1839, couvre la première colonie modèle à Maitrey, près de Tours, sous l'influence d'un magistrat de Metz, et se diffusent en France des expérimentations en direction de ces jeunes pour les régénérer par la terre et les mettre au travail des champs pour les sortir des villes, en quelque sorte, et pour les améliorer. Ce qui s'est passé, c'est que dans beaucoup de ces établissements privés puis publics, on a cherché, en quelque sorte, à exploiter ces enfants. Vous citiez Le Cointe, c'est une colonie pénitentiaire à Petit-Quevilly, dans la banlieue de Rouen, où on leur faisait casser des cailloux, où on les exploitait, et des plaintes assez nombreuses ont dénoncé ces bagnes d'enfants qui ont fonctionné jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puisque Jean Genet a fréquenté Maitrey dans les années 1930.
Avec une délinquance pardon, des enfants qui augmente d'ailleurs à la fin du 19e. Il y a aussi un autre phénomène très curieux qui se produit à la fin du 19e et qui va d'ailleurs se poursuivre jusqu'en 1940, c'est la diminution spectaculaire du nombre des prisonniers qui passe de 125 000, je cite vos chiffres, en 1891 à 20 000 en 1914, c'est-à-dire 6 fois moins. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est parce que la délinquance diminue, les peines de prison sont moins nombreuses ?
Les républicains de la Troisième République ont souhaité créer une prison républicaine à la manière de la républicanisation de l'armée, de l'école, et ont fait voter quelques lois qui, par des effets mécaniques, ont contribué à la baisse des effectifs des prisons. Le sursis est une innovation qui a contribué beaucoup à la diminution des effectifs des prisons.
Ah, il date de cette époque, le sursis.
1891. Ouais. La relégation, qui est une loi de durcissement à l'égard des multirécidivistes, ces multirécidivistes dont la société souhaitait se débarrasser, les petits voleurs de poules, les pieds de biche, comme on les appelait, les vagabonds, cette fin des vagabonds dont parlait Michel Perrault, qui vont être expulsés en Guyane jusqu'en 1937. Et puis également la libération conditionnelle qui va être développée, donc des lois républicaines qui contribuent à diminuer les effectifs des prisons à la veille du premier conflit mondial.
Si bien en tout cas qu'à partir de 1900, on ne construit plus de prisons, on en ferme même beaucoup, y compris d'ailleurs la plus sinistre, le plus sinistre des lieux de détention, Le Bagne, une archive pâtée de 1937.
Le gouvernement français va déposer un projet de loi relatif à la suppression du bagne. Actuellement, les condamnés aux travaux forcés sont réunis à l'île de Ré. Chaque année, un départ a lieu pour la Guyane et les îles du Salut, qui, depuis 1852, ont été désignés comme lieux de transportation. C'est en Guyane que se trouvent le pénitencier et les principaux camps de forçats. Quant aux relégués, ils vivent à Cayenne ou aux environs immédiats. En créant ce bagne, le législateur espérait obtenir les classifications indiquées par la durée des peines, autant que par l'âge et le caractère des individus. Les condamnés doivent expier, mais aussi pouvoir s'amender. C'est ce que le gouvernement français désire obtenir dans une nouvelle organisation.
La nouvelle organisation, ce sera tout simplement la fin du bagne, Jean-Claude Vimont, en 1938, un an à peine après cette archive. Le bagne qui est la pire des prisons, vous en parlez peu pourtant dans votre livre.
Cette prison à ciel ouvert ne concerne qu'une dizaine de milliers de détenus chaque année. Il a fonctionné dans les ports français jusqu'en 1854. À partir de 1854, les forçats ont été envoyés en Guyane. À partir de 1885, leur effectif est augmenté des relégués, ces multirécidivistes, qui partent aussi en Guyane. et également Nouvelle-Calédonie. Les taux de mortalité sont effrayants et les campagnes d'Albert Londres dans les années 30 ont contribué à la disparition de cet univers mortifère qui ne réformait pas les hommes et qui mourait en quelque sorte.
Et de beaucoup d'autres prisons aussi en métropole hein, qui sont supprimées. Est-ce que justement la diminution des effectifs qui explique la diminution du nombre des prisons au début du XXe siècle, c'est pas finalement quelque chose de négatif? Parce qu'au fond, on s'est contenté de faire des économies plutôt que d'essayer de réformer les prisons.
La baisse des effectifs a incité les ministres des Finances, Poincaré en particulier, à fermer énormément de prisons plutôt que de les réformer. On ne voyait pas l'utilité de s'intéresser à un univers qui ne concernait que 20 à 30 000 condamnés. Et on n'a pas saisi cette chance de réformer un univers qui lentement se détériore. C'est l'univers d'un bricolage et quelque chose d'une grande misère qu'on connaît bien par les photographies d'Henri Manuel dans les années 30, et un univers figé, héritier du 19e siècle, et qui ne change pas, et qui se détériore jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
Oui, parce que c'est pas la guerre qui va l'améliorer. On en parlera demain avec vous, Jean-Claude Vimont, pour la deuxième partie de ces deux émissions spéciales sur les prisons. En attendant, je recommande la lecture de votre livre, La prison à l'ombre des hauts murs, publié chez Gallimard, dans la collection Découverte. Vous avez pu entendre des extraits des films et téléfilms suivants, Les Misérables de José Dayan, La Révolution française de Robert Enrico, Si Paris nous était compté de Sacha Guitry, ainsi qu'une archive pâtée de 1937 issue du journal de votre année distribuée par Montparnasse Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements et une bibliographie plus complète en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Mathias Alléon et Antoine Viossa, documentation Virginie Bleuclenet et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.